Un jour, un livre, un auteur. On se retrouve à nouveau. Diego Arrabal, bonjour.
Bonjour Philippe.
Allez, aujourd'hui, une émission où on va parler effectivement de livres, mais aussi de musique. Un petit rappel tout d'abord. C'était un moine italien du XIe siècle, Guido d'Arezzo, que l'on attribue généralement l'invention du solfège. Sans solfège, pas de partition, et sans partition, il serait assez difficile de jouer dans les églises. Aujourd'hui, avec nous, l'organiste de Lourdes, Marc Méraud, organiste titulaire de l'église du Sacré-Cœur à Lourdes depuis 1979. Bonjour Marc Méraud.
Bonjour Philippe.
Bonjour Marc.
Et bonjour Diego.
En lisant votre interview, assez étonnante, je dois dire, sur le site Lourdes Cœur des Pyrénées, j'ai découvert que vous aviez un répertoire colossal de 12 000 œuvres et 800 auteurs et que vous aviez chez vous 40 000 partitions. 40 000 partitions. Comment on peut arriver à avoir une telle collection ?
C'est tout simplement le fruit d'années de recherche. Je joue forcément de mon instrument, comme tous les instrumentistes, enfin on commence pas à 20 ans, on commence beaucoup plus tôt. Alors l'orgue, il y a une particularité, on ne peut pas commencer avant 12-13 ans. Une raison toute simple, c'est que comme on joue avec les pieds, avant cet âge-là, on n'a pas des jambes d'une longueur suffisante pour toucher le clavier des pédales, on appelle ça comme ça. Donc voilà, c'est une longue aventure, on va dire, cet instrument. Mais c'est surtout que j'ai écrit beaucoup de livres sur l'histoire de l'orgue, et donc j'ai fait évidemment beaucoup de recherches. Et donc, avec les moyens quand même informatiques que l'on a aujourd'hui, j'ai effectivement collectionné. Parce qu'on ne comprend que si vraiment on va dans le détail des choses, si on joue toujours les mêmes auteurs, ben finalement on n'avance pas, ni musicalement, ni conceptuellement. Voilà, ce qui fait que petit à petit, j'ai ainsi accumulé et organisé et travaillé. Donc j'en ai effectivement à peu près 40 000. Quand je dis 12 000, c'est 12 000 partitions qui sont prêtes à être jouées au pied levé. C'est d'où d'ailleurs ce qui va m'amener ici, hein, puisque j'ai commencé une série de concerts, parce que je me suis dit que c'était un petit peu dommage de laisser tout ça uniquement pour moi. Ça n'a finalement que peu d'intérêt. Certes, je joue les cérémonies liturgiques à Lourdes, bien sûr, donc à peu près 150 services par an. Mais dans une messe, on joue 4 morceaux. Voilà. L'entrée, l'offertoire, la communion et la sortie. Bon, comme il y a deux messes ou plusieurs messes par dimanche, je ne joue pas toujours le même offertoire suivant que l'un est plus long que l'autre. Donc en fait, je prévois 5 morceaux. Donc je n'ai que 5 morceaux par dimanche, ce qui finalement fait 250 ou 300 par an, ce qui n'est strictement rien.
Reporté à 12 000, oui, c'est vrai que c'est...
Oui, voilà. Et donc, je me suis dit, ce n'est pas possible. Enfin, il y a un tas de
musique... Il faudrait 600 ans, quoi. Je calcule, il faudrait 600 ans, oui, pour arriver à toutes les jouer.
Et comme, alors, je m'impose de jamais jouer deux fois la même chose, ni aux messes, ni aux concerts. Justement pour... C'est trop facile, j'allais dire. Enfin, c'est trop facile. C'est surtout qu'on arrive à ce que tout le monde joue un peu la même chose. Voilà. On considère que jouer Bach, évidemment, c'est incontournable. Alors, je suis bien d'accord que Bach, on n'a pas fait beaucoup mieux. Bon, voilà, il y a quelques grandes pièces pour orgue que tous les organistes essayent de jouer. Et dans chaque concert, finalement, ça tourne, entre guillemets, un petit peu en rond. Voilà, donc j'ai essayé de casser ça, de faire un projet original. Et donc d'essayer de jouer un maximum de musique, un maximum d'ambiance, de pays, etc. Et d'époque. Voilà.
Et d'époque. Alors, on va parler de vous, s'intéresser un peu à comment vous en êtes arrivé là, Marc Méraud. En lisant sur le site donc Lourdes Cœur des Pyrénées, j'ai vu dans l'interview, vous déclarer les mots suivants. Ce sont vos mots, que je lis, votre verbatim. C'était à Pleuhermel, alors je précise, hein, Pleuhermel, hein, c'est dans le Morbihan, en Bretagne, c'était à Pleuhermel, dans un pensionnat en Bretagne. Il y avait une chapelle avec un orgue. Je m'échappais du sport obligatoire le midi pour aller à l'orgue. Bravo. Et voilà, ça n'a pas beaucoup changé, rajoutez-vous. Alors moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui n'a pas beaucoup changé depuis cette époque, Marc Méraud ?
C'est que je m'échappe du sport.
Ah, voilà, vous échappez toujours du sport. Bon, mais ok, bravo, continuez.
Le plus grand sport que je fais, c'est de monter les 49 marches de la tribune de l'orgue plusieurs fois par jour.
Mais voilà. C'est très bon, ça, pour la santé.
Mais absolument. Mais ce qui n'a pas changé aussi, c'est que je fais beaucoup d'orgues, beaucoup d'instruments. Pendant une quinzaine d'années, enfin 12 ans exactement, j'ai consacré mon temps à l'écriture d'une dizaine de livres Vous m'aviez interviewé il y a quelques
Oui.
années sur le sujet, donc sur le répertoire d'orgue et de musique liturgique pour l'orgue, et donc sur toute son histoire et ses problématiques. Et donc pendant ce temps-là, j'ai un peu moins joué. J'ai travaillé sur les partitions, mais d'abord à les copier pour les éditer. Et ensuite, j'ai joué, mais moins, c'était moins l'objectif. Et donc depuis, notamment aussi que ça va avec le fait que l'église du Sacré-Cœur à Lourdes a été en travaux et est revenue, donc l'orgue qui a été mis en sommeil, même enfermé dans des caisses pendant 7 ans. Et
Ah,
donc,
on met un orgue en sommeil, on le met dans des caisses. C'est-à-dire, on ne peut pas le laisser.
l'église allait être donc en travaux, donc avec toute la poussière qu'on
Oui,
peut
d'accord.
imaginer. Donc il fallait absolument protéger l'orgue. Donc il a
D'accord.
été alors plutôt
Démonter.
que démonté totalement et plutôt que de le renvoyer en atelier. Ce qui aurait fait des frais de stockage et de transport et les incertitudes aussi du transport. En fait, il est resté dans l'église, mais enfermé dans des caisses. Voilà.
Alors, quand on remonte un orgue, c'est vous qui le remontez?
Ah non,
C'est
c'est
un
le facteur
facteur.
d'orgue, c'est-à-dire celui qui fabrique l'orgue, ça s'appelle un facteur d'orgue.
Un facteur d'orgue,
Un
d'accord, je ne
facteur
connaissais pas.
d'orgue, donc, pour monter un orgue, il faut à peu près entre 3 et 6 mois. Juste un petit détail,
Ah
donc.
oui.
Si cet orgue était construit aujourd'hui, il coûterait à peu près 800 000 euros, pour vous donner un ordre de grandeur.
Hors taxe. TTC.
Ou TTC, mais
C'est
enfin,
pas mal.
on est d'accord que ça ne change
Ça
pas.
fait
Ça
beaucoup,
ne
hein,
change pas le
franchement.
fond de la question.
C'est un bon petit prêt, quand même, hein,
Voilà.
auprès de la banque. Hein.
Et le simple remontage de l'orgue a coûté 100 000 euros.
Ah oui,
Voilà,
d'accord.
c'est pour fixer un peu les choses. Au passage, l'orgue a changé de place dans l'église du Sacré-Cœur. Il était avant dans le chœur depuis les années 1967, quand l'église avait été refaite. Et à l'époque, l'orgue avait été mis dans le chœur, non pas vraiment pour des raisons esthétiques, mais pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'il aurait fallu reconstruire une tribune qui était en piteux état. Donc ils avaient tout laissé comme ça. Et en plus, le fait de mettre un orgue dans le chœur, ça dispensait de faire une décoration dans le chœur. Et notamment des retables ou des œuvres d'art. Le dernier curé de Lourdes, Jean-François Duhart, enfin, qui a été nommé donc juste avant l'actuel, avait décidé et entrepris, celui qui a entrepris d'ailleurs les travaux, la rénovation de l'église. Donc il y avait les travaux qui s'imposaient parce qu'il y avait de grandes gouttières, etc. Et ça menaçait d'être fermé au public. Mais du coup, ils ont profité de cette occasion pour faire une rénovation artistique aussi de l'église. Donc ça, c'est à l'initiative de Jean-François Duhart. Et parmi sa première idée, l'anecdote est assez plaisante. Il voulait absolument sortir cet orgue du chœur. Et justement, la petite anecdote, c'est l'une des premières fois qu'il est arrivé dans cette église de Lourdes. Il est monté à l'orgue j'allais dire, en furie, mais une sainte colère, j'allais dire,
Forcément.
pour reprendre un vocabulaire reconnu. Et il me dit, en imaginant probablement que j'allais sortir de mes gonds, il me dit, mais cet orgue n'a rien à faire là, on n'adore pas l'orgue, on n'adore que Dieu. Ce que je conçois fort bien. À quoi je lui ai répondu, la chose la plus simple du monde, mais qu'à cela ne tienne, je vous fais faire un devis tout de suite pour à remettre l'orgue en tribune. Parce que musicalement, en effet, enfin, spirituellement, effectivement, c'est mieux, on est bien d'accord, et musicalement aussi. Donc moi, je n'allais pas me faire prier,
C'est
simplement.
mieux, c'est-à-dire en termes d'acoustique.
En termes d'acoustique, oui, c'est beaucoup mieux. Parce que là, l'orgue qui était placé dans le chœur, à l'époque, ben, il sonne, on va dire que le son attrape les gens de pleine
De
face.
face.
Il n'y a pas d'intermédiaire. Le son ne part pas se casser dans les voûtes. Il n'a pas le temps. Il part en ligne droite et il vous arrive comme ça direct. Donc, ceux qui sont dans les premiers rangs, ils ont quand même quelque chose d'assez sonore, on va dire.
Ça fait combien de décibels un orgue?
Oh, bah ça fait un peu tout. Mais non, mais ça peut vraiment bien monter. J'ai pas le chiffre.
Vous
Mais
portez des
plus de
protections
100.
acoustiques, vous, quand vous
Ah,
jouez,
oh, pas
ou
du
pas?
tout,
Pas
non.
du tout,
Ah, ben
d'accord.
non, mais il faut que
Non.
j'entende ce que je
Bah
joue.
oui. D'accord.
Alors, ceci dit, c'est moi qui entends le moins bien, parce que moi, je suis sur mon banc à l'orgue et je n'ai pas le retour du son. Je
D'accord.
n'ai, je suis pas
D'accord.
dans
C'est
l'église.
intéressant, ça, de savoir,
Voilà.
effectivement.
Donc, en général, bon, je suis un peu habitué. Donc, je sais ce que ça va donner, mais parce que j'ai entendu d'autres qui jouent. Enfin, voilà. Il faut l'écouter. Ou bien, à une époque aussi, j'avais placé des micros d'enregistrement pour avoir un retour et voir effectivement ce que ça donnait. Mais donc, et avec l'orgue dans le chœur à l'époque, la difficulté était que, bon, ceux qui étaient dans les premiers rangs, le premier tiers de l'église avait une perception très présente de l'orgue, un peu trop. Et par contre, si on arrivait au fond de l'église, il y avait un endroit dans l'église à peu près au tiers, où on avait l'impression que c'était même pas du tout le même instrument qui jouait.
Ah bon, à ce point.
C'est-à-dire que le son était... en fait, c'est à cet endroit-là de l'église, le son avait eu le temps de tourner, de se tourner, casser contre les voûtes, ouais. Et donc il était complètement différent et plus feutré, moins net, moins perceptible. Enfin,
c'est-à-dire que si on fait trois fois le même concert aux trois endroits différents que vous citez, on assiste à trois concerts différents?
Oui, un peu. En tout cas, si on le fait à l'aveugle et qu'on fait des enregistrements, c'est pas sûr qu'on va reconnaître que c'est le même instrument. C'est pas sûr.
D'accord. Mmh.
Sauf si on est peut-être
habitué qu'on analyse
le son des jeux. Mais sur la perception générale, oui, ça peut être fort différent. Alors maintenant qu'il est en tribune, comme la plupart des orgues, de toute façon, s'ils ont été mis en tribune, c'est bien pas, c'était le meilleur endroit acoustique. Donc le son part, d'abord, l'orgue est très haut chez nous, à l'église du Sacré-Cœur, il est à, rien que la tribune, déjà, elle est à 12 mètres de haut, 12 mètres 50 du sol. Donc l'orgue est encore au-dessus, il fait à peu près 8 ou 9 mètres, donc l'église fait 22 mètres 50. En fait, l'orgue est à peu près, en moyenne, les tuyaux sont à au moins 15, 16, 17 mètres de haut. Donc ça part dans le haut de la nef et ça va se casser. Et le son, il replonge après. Et la première réflexion de beaucoup de gens quand ils ont entendu l'orgue à le nouvel emplacement, c'était à Pâques 2023. On m'a rapporté ça ou ça m'a été rapporté. Beaucoup de gens ont dit « on se croirait dans une cathédrale ». Ça voulait dire, on entend un orgue comme on l'entend dans les grands édifices.
Donc, ce qui est bien meilleur que...
Ah oui, voilà. Il est plus... Alors, pas plus doux, c'est beaucoup dire. Ça reste un instrument puissant et polyvalent, mais il est quand même... Le son n'est pas agressif, voilà. Parce qu'il a le temps d'avoir pris un peu de réverbération dans l'ensemble de la nef, voilà, qui a un très grand volume.
On va parler, Marc Mérou, un jour, un livre, un auteur. Donc, on a parlé des livres, effectivement, que vous écrivez. Alors, par contre, ces livres, vous allez nous dire, juste avant que j'enchaîne sur le point suivant, où est-ce qu'on peut les trouver?
Il suffit de taper sur Internet Marc Mérou, simplement.
M-E-Y-R-A-U-D.
Oui, voilà, d'accord. M-E-Y-R-A-U-D. Je pense qu'on arrive directement... de toute façon, sur moi, ça va parler de mon actualité, mais de toute façon, les livres vont apparaître très vite. Donc le titre, c'est... il suffit de taper « Musique liturgique pour orgue voilà, ».
Ça coûte combien, juste un ordre d'idée
Alors, ce sont des livres qui font 300 pages. Ils sont au prix de 29,50 €. Ce sont de très beaux livres aussi.
À offrir pour Noël, donc.
Format à l'italienne, oui. Alors, les acheteurs, il est vrai... ont été essentiellement, évidemment, des organistes, mais pas que, des chrétiens aussi, parce qu'ils y trouvent l'histoire de la liturgie, l'histoire de toute la tradition musicale, alors non seulement à l'orgue, mais pour le chant, puisque l'orgue souvent commente le chant grégorien pour les pays catholiques et tous les chorales allemands pour les pays protestants. Donc en fait, c'est un bain de culture religieuse au sens large, voilà. Par contre, c'est écrit de manière à ce que ça ne s'adresse pas à des lecteurs chrétiens ou typiquement chrétiens. Chacun doit pouvoir, y trouve son compte. Donc, c'est vraiment des livres culturels, mais après...
Plus profane, on va dire profane un peu.
Oui, qui s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire,
profane et au sacré, d'accord.
On y trouve les informations religieuses, mais au même titre qu'un universitaire travaille sur ce sujet. Voilà.
D'accord.
D'ailleurs, les livres se trouvent dans beaucoup de bibliothèques universitaires de France, d'Allemagne et de bien des pays européens. Voilà.
Alors, on va parler donc les heures d'orgue, l'orgue de A à Z. Je vais présenter, que la feuille ne me tombe pas des mains. Donc, en régie, juste si on peut grossir l'image, s'il vous plaît. Donc, l'orgue de A à Z. Donc, tous les derniers dimanches du mois, à 16h30,
oui.
Vous effectuez les heures d'orgue. Parlez-nous un peu de cette manifestation musicale mensuelle, s'il vous plaît.
Alors justement, comme on parlait tout à l'heure de mon répertoire assez étendu, je voulais partager ça, mais de façon un petit peu informelle. Donc déjà, ça ne s'appelle pas concert, même si objectivement, ce sont des concerts. Mais mon idée, c'était, je vais tout vous dire même, Ma première idée.
On vous a fait venir pour ça, pour tout nous dire, hein, Marc Miro. Sinon,
ce que je vais vous dire, avons les moyens de vous faire parler.
c'est un rêve qui est totalement irréalisable, mais l'esprit m'est resté. C'était de jouer en continu les 12 000 œuvres, enfin 12 000 ou plus, parce que j'en rajoute tout le temps au fur et à mesure que je travaille. Mais donc, ça aurait été de jouer en continu, parce que moi, je peux le faire. Je peux très bien jouer de 9h à midi et de 14h à ce que vous voulez, d'ailleurs, à 18h, en audition continue. Voilà. Vous pouvez très bien prendre les partitions par ordre alphabétique, ce qui a l'avantage de les mettre dans l'ordre tout à fait aléatoire, en vrai. C'est-à-dire, on va passer d'un auteur italien du 16e à un auteur contemporain d'un autre pays, voilà. Donc, ça mélange tout de façon naturelle. Sauf que voilà, ça aurait pu s'appeler le marathon des orgues. Alors le titre existe déjà à Toulouse.
Ah d'accord, ok. Parce que je trouve que c'est joli, ouais.
Oui,
c'est,
mais voilà, mais en fait ça existe. Mais bon, ceci dit, j'avais pensé sans référence à d'autres manifestations. Sauf que moi je vais jouer, mais je risque d'être tout seul parce que je ne vois pas comment les gens vont être présents. Voilà, sur un horaire continu, sur les jours continus, etc. D'autant que l'église de Lourdes n'est pas désaffectée, que je sache. Donc il y a quand même.
Il y a des messes.
Elle est quand même très occupée. Donc voilà, il faut se.
Et on ne peut pas déplacer l'orgue.
Et on ne peut pas déplacer l'orgue, en effet.
On ne peut pas réserver, il n'y a pas des plages de réservation
Alors non, mais à titre... moi, je joue la nuit, je ne joue pas le jour. Enfin, moi, je fais à peu près 35 heures d'orgue par semaine, mais je joue la nuit, bien entendu.
La nuit, c'est de quelle heure à quelle heure?
La nuit, j'arrive, alors ça dépend, j'arrive vers 20h et je repars vers minuit, 1h. Enfin, je peux arriver plus tôt. Alors, il peut arriver que j'en fasse un peu en journée, enfin, entre midi et 2. Enfin, quand l'église, en fait, j'ai moins de chance d'avoir un enterrement, une messe, etc., et toutes les contraintes.
Donc c'est là où vous échappez du sport obligatoire.
Oui, alors
la nuit qui a lieu le soir pour aller gravir les 49 marches, donc pour monter à l'orgue et donc aller jouer. C'est ça, en fait. Vous continuez à faire ce que vous faisiez à Pleurmel, donc dans le Morbihan, voilà. Quand vous étiez jeune. Vous êtes un récidiviste, Marc
Miro. Je suis un récidiviste. Le seul changement, je peux regarder le sport à la télé. Ça, c'est vrai.
Mais... Il paraît que c'est moins efficace.
Mais ceci dit, quand on voit jouer un organiste, je dis souvent en concert, notamment
c'est du sport.
À l'église de Luz, où on voit l'organiste, c'est l'une des rares églises où on peut voir l'organiste de visu, quoi. Effectivement, je précise en général à mes auditeurs que c'est bien le seul sport que je pratique, parce qu'effectivement, physiquement, ça reste quand même assez sportif. Puisqu'on joue. C'est le fait de jouer avec les pieds, c'est pas le fait de jouer avec les mains qui
est sportif. Puis on se déplace, non, sur le banc, en même temps qu'on...
Alors, normalement, le moins possible. Voilà, on ne peut se déplacer que dans des cas très particuliers. Il existe de rares morceaux pour pédalier solo. Donc, ils sont écrits de façon très, très virtuose. Donc, on joue plusieurs notes en même temps. Alors, on ne peut pas faire plus de 2 notes avec chaque pied, forcément. Parce que, pour donner un petit détail pratique... Un pied, ça a un talon et une pointe. Donc, en général, on joue avec l'alternance talon-pointe ou pointe-pointe, suivant le style de musique. Mais donc, on ne peut pas jouer plus de 2 notes avec un pied. Donc, ça fait quand même 4 notes à jouer avec 2 pieds. Il existe des morceaux, effectivement, où on joue de la musique qui est tout à fait spectaculaire. Donc là, on peut être amené à bouger un peu et à s'accrocher même un peu à son banc.
À son
banc.
Mais
c'est plutôt un exercice de démonstration.
Qui est fait. Les heures d'orgue, l'orgue de A à Z, tous les derniers dimanches du mois à 16h30, je précise que c'est gratuit.
Gratuit. Non, alors, c'est plus que gratuit. Alors, comment on peut faire plus que gratuit? C'est-à-dire, souvent, quand on dit gratuit, c'est entrée libre et il y a quand même un petit panier au fond, au chapeau, comme on dit dans les spectacles. Bon, je n'ai pas voulu qu'il y ait même de chapeau. Donc, il n'y a vraiment aucune quête, rien. Voilà. Chacun vient écouter l'orgue, il rentre, il sort, il fait ce qu'il veut. Et chacun vient y chercher ce qu'il veut. Il y en a qui viennent y chercher du recueillement. Il y en a qui viennent dire. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. L'église est ouverte. Voilà, le dimanche après-midi, j'ai choisi un horaire qui convient un petit peu à toutes les saisons. Pas trop tôt, pas trop tard. Et j'ai quand même gardé mon idée d'audition continue. Vous voyez, l'orgue de A à Z, j'ai gardé l'idée alphabétique. Donc, par exemple, le prochain concert, c'est le dimanche 30 novembre, et puis, etc., le 28 décembre, etc. Donc, j'ai fait le premier déjà en 26 octobre, je crois. C'était sur les compositeurs. Alors, ce n'était pas la lettre A, c'était les compositeurs qui n'ont pas de nom, les anonymes, parce qu'on a pas mal de musique, alors notamment ancienne, où on n'a pas l'auteur.
Et vous voulez rentrer dans quelle lettre de l'alphabet alors?
Ça tombait bien, donc je les ai fait au début.
Anonyme, d'accord.
Donc, alors les gens ont cru que c'était la lettre A, mais non, en fait, c'est parce qu'ils étaient anonymes. Et donc, parce qu'ils n'avaient pas de nom, donc j'ai commencé par eux, ce qui n'était pas la chose la plus facile d'ailleurs. Parce que forcément, il n'y a pas de grand auteur, sinon ils seraient connus. Mais j'ai trouvé pas mal de pièces très intéressantes. Là, la prochaine fois, le 30 novembre, ce sera sur les compositeurs de la lettre A. Fin décembre, alors la lettre B, j'en ai énormément, donc je pense que je vais faire au moins 3 concerts sur la lettre B. Puis dans B, il y a Bach. J'ai d'abord eu l'idée de ne pas faire un concert sur Bach, puisque beaucoup jouent du Bach. Et après, je me suis dit quand même, ne rien faire sur Bach, je vais être quand même très critiqué, puis c'est très difficile.
C'est vrai, iconoclaste.
Et puis les gens l'attendent quand même, donc on va leur faire ce plaisir. Il y aura un concert entièrement dédié à Bach quand même.
Entièrement dédié. Et donc, ça sera à quelle date?
J'ai pas la date, mais c'est dans les suivants. Ah, si,
2026, donc.
Non, mais je peux vous le dire à peu près, parce que mes programmes sont déjà un peu faits pour 4 ou 5 concerts. Donc, le premier concert de la lettre B, c'est fin décembre. Donc, deuxième concert de la lettre B, ce sera fin janvier. Donc, naturellement, je pense que je mettrai Bach soit en troisième.
Fin février 2026. Donc, dernier dimanche, ça tombera quelle date? Voyons voir qu'on donne ça.
Pas vous l'affirmer totalement, parce qu'il se passe que comme on est déjà en carême, je fais toujours un petit clin d'œil aussi à la période liturgique.
Ouais.
Donc fin octobre, je faisais un petit clin d'œil à Toussaint, qui était tout proche.
Ouais.
Là, le 30 novembre, c'est le premier dimanche de l'Avent. Donc je vais jouer une petite partie sur la musique de l'Avent, il y en a énormément. Fin décembre, évidemment, c'est Noël. Fin janvier, il n'y a rien de très spécial. Je pense que je continuerai sur le temps de Noël, qui est encore un peu présent. Les guirlandes sont toujours là, les illuminations.
On souhaite les vœux jusqu'à
la fin janvier. Donc je continuerai. Bon, il y a la musique de l'Épiphanie, les marches des rois, etc. Voilà, donc après, on va peut-être tomber dans le crâne. Peut-être que le concert sur Bach sera mis une période plus creuse liturgiquement, donc éventuellement l'été. Voilà, mais ça, ce n'est pas décidé. Mais il y aura un concert sur Bach, évidemment.
Alors, on rappelle, parce qu'on arrive au terme de cette émission, Marc Méraud, donc l'orgue de A à Z, les heures d'orgue, l'orgue de A à Z, tous les derniers dimanches du mois, 16h30, c'est tous les mois de l'année.
Tous les mois de l'année.
Juillet, août, y compris.
Toutes les années qui se suivront, jusqu'à ce que je ne sois plus en état de le faire.
Oh, bah, écoutez,
donc, tant que Dieu me prête vie, expression.
Dieu va vous prêter vie longtemps, alors, je pense, pour qu'effectivement, on puisse vous écouter le plus longtemps possible. Donc, on le répète, les heures d'orgue, l'orgue de A à Z, tous les derniers dimanches du mois, 16h30. Entrée gratuite, on insiste bien là-dessus, pour toutes celles et ceux qui viennent en pèlerinage à Lourdes, en visite, en touriste, etc. Quelle que soit la raison ou les raisons pour lesquelles on vient à Lourdes, effectivement, dernier dimanche, ça vaut vraiment le coup de venir vous écouter, Marc Méraud, puisque vous y êtes depuis 1979. Et on explique donc aux gens surtout de ne pas venir vous voir au cours de sport, ils ne vous verront pas. il faut bien qu'ils viennent, effectivement.
Donc, ne me cherchez pas dans les salles de sport. Par contre, un dernier mot sur le concert, il y a toujours des commentaires très pédagogiques et qui sont non seulement lus, mais écrits sur le programme et que vous emportez. Donc, de manière à ce que vous repartiez avec des petites connaissances, éventuellement, et surtout aussi, notamment aussi parce que l'église a une acoustique qui peut être quand même, qui résonne beaucoup. Donc, c'est aussi pour être sûr que tout le monde comprend bien la lecture des commentaires, chacun l'emporte.
Commentaire lu, ça veut dire qu'avant que vous jouiez un morceau?
Oui, il y a une petite explication.
C'est vous qui l'a faite ou c'est quelqu'un qui l'a?
C'est moi qui l'ai écrit. Mais pour être précis, c'est Mylène Fondecaf que vous avez reçue dans une de vos émissions précédentes.
D'accord, ok.
Qui me seconde dans ce travail. Par exemple, nous avons donné un concert à Séméac il y a quelque temps sur son livre sur les passeurs, justement.
D'accord.
Un concert, le texte entier intégral a été lu avec des morceaux d'orgue. Donc c'est un spectacle.
C'est original.
Un spectacle musical et littéraire qui nous est d'ailleurs demandé parce qu'apparemment il a beaucoup.
Il faudra qu'on vienne faire une émission littéraire un jour en direct. Il faudra qu'on en touche un mot à notre technicien Philippe Subercaz, effectivement, parce qu'on pourrait faire ça, d'avoir des textes qui soient lus avec également de la musique derrière, ça serait particulièrement original. Merci beaucoup Marc Méraud d'avoir été notre invité aujourd'hui. Hein. Je rappelle une dernière fois, donc l'orgue de A à Z, tous les derniers dimanches du mois à 16h30, tous les mois de l'année, c'est gratuit. Voilà, Diego Arrabal, ce qu'on pouvait dire. Et à la semaine prochaine.
Merci. Au revoir, Marc.
Merci, au revoir,
Marc. Au revoir à vous deux.